Il est 8h20, nous retrouvons Olivier Bousquet, qui est responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Google. Je ne vais pas lui demander si l'intelligence artificielle serait utile aux politiques, mais je vais quand même vous demander, Olivier Bousquet, pourquoi on a besoin d'intelligence artificielle? Après tout, on a une quantité quasi illimitée d'intelligence naturelle, pas uniquement, vous allez me dire, mais ça sert à quoi au fond l'intelligence artificielle?
Alors je peux vous répondre en vous donnant quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle. Mais d'une façon générale, je dirais que ça permet d'aider. C'est un outil qui va permettre d'aider les humains. Donc c'est quelque chose qui est au service de l'humanité et c'est un peu dans le sens dans lequel nous travaillons, de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Prenons un exemple très simple. La reconnaissance d'images, la reconnaissance d'objets dans les images dont nous avons parlé précédemment, peut être mise en œuvre dans des situations auxquelles on pourrait ne pas s'attendre, c'est-à-dire dans le cas de la protection de l'environnement. Alors vous allez me dire pourquoi. Parlons des lamantins. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un lamantin.
Les lamantins sont des animaux marins.
Un mammifère marin.
Frédéric XVI aime beaucoup d'ailleurs.
On les connaît bien. Alors,
les dugongs et les lamantins.
Artificiels les aident.
Alors les lamantins, donc, c'est une espèce menacée. Ça veut dire qu'il faut surveiller, les compter. Des scientifiques font des campagnes aériennes. Ils passent au-dessus de l'océan en avion et prennent des photos pour repérer les lamantins et savoir combien il y en a et pouvoir protéger leur environnement. C'est une tâche fastidieuse pour laquelle l'intelligence artificielle peut aider dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'on va prendre ces photos, on va entraîner une machine à repérer les lamantins sur ces photos, ce qui n'est pas évident parce qu'ils sont sous l'eau, donc il faut distinguer un lamantin d'un rocher qui pourrait ressembler. Et l'intelligence artificielle va permettre de créer un programme qui repère les lamantins, qui donc va automatiser le calcul ou le décompte de ces lamantins et permettre aux scientifiques de mener des campagnes beaucoup plus importantes et donc se consacrer, plutôt que d'analyser des photos pendant des heures, se consacrer à la mise en place de mesures de protection des lamantins.
Mais alors, je vais être un peu dur avec vous, Olivier Bousquet. Donc, on se dit qu'effectivement, c'est très fastidieux de compter les lamantins, mais qu'au bout du compte, c'est une tâche qui est extrêmement répétitive et qui est finalement assez peu intelligente. Est-ce que ça n'est pas un abus de langage de parler, dans ce cas-là, par exemple, d'intelligence artificielle? Steven Pinker, qui est un psychologue américain, remet en cause le terme et dit que finalement, l'intelligence artificielle est artificielle, mais elle n'est pas tellement intelligente.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un terme qu'on utilise de façon générique, mais qui, de toute façon, est très difficile à caractériser. Qu'est-ce que l'intelligence? Et puis, le but est vraiment, pour nous, de faire des outils qui sont technologiques et utiles. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler d'apprentissage automatique, qui est vraiment la technologie dont on parle, plutôt que d'intelligence artificielle, qui est vraiment très générique et très mal définie.
Alors justement, Pinker, lui, a réfléchi à cette question-là en tant que psychologue, et il se dit que la véritable intelligence, c'est par exemple la capacité de répondre une question, de répondre à une question que l'on n'a jamais eu l'occasion d'étudier ou qu'on n'a jamais formulé. Par exemple, si on demande à un être humain si les zèbres portent des slips, il aura une réponse aisée. Pinker dit qu'un ordinateur sera très embarrassé par une question de ce type. Votre opinion à ce sujet?
Alors en effet, c'est une question très importante qui indique les limites actuelles de l'intelligence artificielle. On parle de la notion de sens commun. Les ordinateurs n'ont pas la notion de sens commun comme un humain pourrait l'avoir. Je parlais tout à l'heure de l'ordinateur AlphaGo qui ne sait pas qu'il joue au Go, qui ne sait même pas que le Go est un jeu inventé il y a plusieurs milliers d'années en Chine, etc. Il n'a pas cette connaissance-là. Mais par contre, il sait calculer des probabilités et donc battre un champion de Go. De la même façon, c'est un axe de recherche très important. Dans le cas de la traduction automatique d'une phrase du français vers l'anglais, par exemple, ce manque de sens commun peut être limitant pour la qualité des résultats obtenus. Si je vous donne une phrase telle que « la foule manifeste contre la réforme parce qu'elle n'est pas satisfaite », elle fait référence à la foule. Mmh. Si je vous dis « la foule manifeste contre la réforme parce qu'elle n'est pas satisfaisante », elle fait référence maintenant à la réforme. Pourquoi savez-vous cela? Parce que vous savez qu'une réforme peut être satisfaisante et une foule peut être satisfaite, mais pas l'inverse. Parce que vous avez tout un tas de connaissances a priori acquise sur des années qui vous permet d'avoir cette information. L'ordinateur qui fait de la traduction automatique n'a pas ces références-là, ne sait pas ce que c'est qu'une foule, ne sait pas ce que c'est qu'une réforme, et donc n'est pas capable de traduire correctement ce pronom, puisque le genre du pronom peut changer d'un langage, d'une langue dans l'autre, et donc va pouvoir faire ce genre d'erreur. C'est quelque chose qui est au centre de nos recherches actuelles, comment donner un peu plus de sens commun à l'ordinateur.
Aujourd'hui, je l'ai dit, un rapport sera remis et rendu public, celui qu'a confectionné Cédric Villani, le mathématicien, et lui suggère que l'intelligence artificielle se concentre sur la santé, l'écologie et la défense. Pourquoi ces trois domaines, Olivier Bousquet, vous en pensez quoi ?
Alors, c'est effectivement, ce sont des domaines qui sont très importants, qui sont au cœur des problématiques que le monde rencontre de nos jours. Et je pense que l'intelligence artificielle, par sa polyvalence, par la capacité qu'elle a à être utilisée dans des domaines très divers, peut apporter des réponses là où on est confronté à des limites de la capacité des scientifiques à apporter des réponses. Et c'est donc tout naturellement que dans notre centre de recherche en intelligence artificielle à Paris, nous allons aussi développer ce genre d'application dans ces domaines aussi, donc l'environnement, l'écologie, la santé.
La santé, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en matière d'intelligence artificielle ?
Alors, je vais vous donner un exemple. En matière de santé, on peut aider au diagnostic médical. Il y a dans le monde près de 450 millions de diabétiques. Lorsqu'on est diabétique, il peut y avoir un risque de cécité, donc de perte de la vue. Et pour prévenir ce risque, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre une image, une photo du fond de la rétine d'un patient et surveiller si les vaisseaux sanguins sont affectés ou pas. Donc il faut prendre une photo de la rétine et demander à un médecin spécialiste d'analyser cette photo et de déterminer s'il y a un risque de cécité. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour... On va entraîner une machine à reconnaître ces défauts des vaisseaux sanguins et on va pouvoir automatiser, là encore, cette tâche de diagnostic et de reconnaissance. Et non seulement l'automatiser, ce qui veut dire pouvoir permettre l'accès à un diagnostic précis à des gens qui seraient dans des endroits où il n'y a pas accès à un médecin spécialisé. Ça peut être dans des pays en voie de développement, par exemple. Mais non seulement permettre cet accès-là, mais aussi raffiner ce diagnostic et le permettre d'anticiper même, puisqu'on va pouvoir détecter plus précisément qu'un médecin, et peut-être plus tôt, et donc faire un traitement beaucoup plus préventif.
Cette journée va être l'occasion d'un certain nombre d'annonces. Il y en a une, la création aujourd'hui d'une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle en partenariat avec Polytechnique. Alors, c'est une annonce dont vous allez nous détailler le contenu, Olivier Bousquet. Et puis, ça pose également le problème de la recherche fondamentale qui a besoin de s'appuyer sur des sociétés, là en l'occurrence Google, avec les risques que cela suppose, Olivier Bousquet.
Alors, c'est une annonce que je vais remettre dans son contexte, c'est-à-dire que il y a une volonté de la part de Google, ainsi que d'autres acteurs, d'investir dans un écosystème. C'est-à-dire que le but, dans le cadre de la recherche fondamentale et de la recherche même appliquée, il est important de s'insérer dans un écosystème qui fait intervenir des instituts de formation, l'école polytechnique, des instituts de recherche, comme l'INRIA, comme le CNRS, et des acteurs privés. Et c'est tous ensemble que nous pouvons faire avancer la recherche et la technologie dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous menons des recherches ouvertes. Ouvertes, ça veut dire que lorsque nous mettons au point un algorithme, quelqu'un d'autre, nous publions cet algorithme, nous allons faire une publication scientifique, vous en avez cité quelques-unes des miennes précédemment, et quelqu'un d'autre, dans une autre société ou dans un laboratoire de recherche, va s'appuyer dessus pour faire avancer encore la science et proposer une évolution. Nous-mêmes allons réutiliser cette évolution et vous voyez, c'est une sorte de partie de ping-pong qui va s'organiser entre les différents laboratoires. Et donc, c'est important de travailler de façon collaborative. Et cette annonce de la chaire créée à l'École Polytechnique, c'est une chaire d'enseignement et de recherche. Donc, ça va permettre à Google d'aider l'École Polytechnique à faire des formations de qualité sur l'intelligence artificielle et donc contribuer à former la nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs dans ce domaine-là.
La France n'est pas en avance en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que concrètement, elle ne fait pas partie des 5 premiers pays dans ce domaine. Pourquoi, selon vous, Olivier Bousquet ?
La France a des atouts indéniables, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ces investissements. Mais il reste encore des choses à faire. Ses atouts sont donc son système éducatif de grande qualité qui forme des jeunes très talentueux. Son système de recherche, on a des instituts comme l'INRIA d'ailleurs nous annonçons aujourd'hui la création d'un partenariat avec l'INRIA qui permet de mener des projets de recherche collaboratifs. Et enfin, il y a en France des domaines pour lesquels la France est en avance. Je dirais l'environnement en est un très bon exemple, on l'a vu sur le plan mondial.
Tout ça, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui cloche ?
Alors, ce qui cloche, c'est de, je dirais, consolider tous ces atouts et donner un axe que, finalement, le rapport Villamy vient renforcer. Et donc, je pense que c'est
un
ça...
Un axe, parce que vous, par exemple, vos études, vous les avez faites en France à Polytechnique. Ensuite, vous êtes parti, je crois que vous êtes parti en Suisse notamment. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en France ?
Alors, on l'entendait tout à l'heure, Serge Habitboul, parler de l'environnement de recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de salaire, comme il disait, c'est aussi une question d'avoir les moyens techniques et d'être entouré par des gens qui vont pouvoir vous aider à collaborer. Je pense qu'il faut fédérer tous les moyens disponibles.
Ça veut dire que les instituts de recherche sont pauvres en France ?
En partie, oui, tout à fait. Il y a un manque de moyens indéniable. Je pense qu'il faut investir. Il y a un certain nombre de recommandations dans le rapport Villani, dont l'une porte sur les salaires. Il parle de doubler les salaires des jeunes chercheurs.
Mais alors ça va être compliqué, parce qu'il n'y a pas de raison que les chercheurs en intelligence artificielle aient un salaire double des salaires, par exemple, de ceux qui travaillent en baratin.
Alors, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas les détails.
Ce n'est pas vous qui êtes responsable de cela, ni du rapport, ni du reste. Mais vous voyez bien qu'il y a une question d'équité qui se pose.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est une mesure qui est facile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est l'idée qui est importante. L'idée qu'il faut revaloriser cette fonction de la recherche et qu'il faut doter les instituts de recherche de moyens pour mener à bien leurs recherches et pour les rendre plus attractifs au niveau international. Et donc, c'est là que notre investissement en France s'inscrit, puisque un des objectifs est de rapatrier potentiellement des gens qui seraient partis, des chercheurs qui seraient partis à l'étranger et qui pourraient revenir, puisqu'on leur offre les conditions qui leur permettent de mener leurs recherches.
L'autre question qui est posée par le rapport Villani est celle des boîtes noires. Alors, il y a beaucoup de boîtes noires en informatique, des algorithmes qui sont opaques, des choses dont on ne parvient pas à comprendre la logique, différents scandales relatifs à la vie privée. Je pense notamment au dernier scandale qui a éclaté en matière donc de vote avec Facebook et une société Cambridge Analytica qui aurait extirpé un certain nombre de profils pour les utiliser à des fins politique, est-ce que Google va s'engager à une transparence supplémentaire, par exemple, ce qu'il advient de nos données personnelles, Olivier Bousquet ?
Alors, c'est déjà le cas pour ce qui est des données personnelles. Nous avons toujours dit que ce qui est important et ce qui a fait notre succès, d'une certaine façon, c'est la confiance. La confiance que les utilisateurs placent dans Google. Et cette confiance se mérite, et donc nous travaillons tous les jours à la maintenir, sur trois principes fondamentaux. Les trois principes sont la sécurité des données, la transparence et le contrôle. Sécurité des données, ça veut dire que vos données, quand elles sont stockées chez Google, par exemple vos emails, si vous utilisez Gmail, sont absolument inaccessibles d'autres personnes tierces.
Vous, vous les voyez, puisque quand je fais une recherche, par exemple, pour aller au ski, eh bien, j'ai droit à de la publicité ciblée sur des paires de skis.
Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre ce qui se passe dans ce cas-là. Ces données sont stockées, évidemment, sur un serveur de Google, mais elles ne sont accessibles qu'à vous-même. Et alors, vous pouvez vous demander, l'annonceur, le vendeur de paires de skis, alors lui n'a pas du tout connaissance que vous faites une recherche sur les skis. Ce qui se passe, c'est que Google sait à ce moment-là que, par exemple, vous avez fait une requête sur les skis, qu'il y a un annonceur qui souhaite proposer des paires de skis, et on va mettre en correspondance ces deux choses-là, sans pour autant que l'annonceur n'ait à aucun moment accès à vos données personnelles. Donc ça, c'est la partie sécurité. Ensuite, il y a la partie transparence. La partie transparence, c'est vous êtes à tout moment capable, en allant sur Google Mon Compte, de vérifier et de savoir exactement quelles sont les données qui sont stockées en association à votre compte Google. Et vous êtes capable, et là on vient dans le contrôle, vous êtes capable de déterminer, c'est l'utilisateur qui va déterminer si ces données sont partagées et avec qui elles sont partagées, et va pouvoir les supprimer à tout moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour lequel Google est en avance sur le secteur, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le règlement sur le règlement général sur la protection des données, qui est une législation européenne qui vient de sortir, c'est quelque chose qui va encourager les acteurs de la net economy à appliquer ce genre de principes beaucoup plus largement, sur la transparence, sur la portabilité des données, sur la responsabilité qu'il y a à stocker et manipuler des données personnelles. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement généraliser, il faut que tous les acteurs s'alignent sur ces bonnes pratiques.
Il y a un certain nombre de craintes en matière donc d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, il y a des craintes qui sont complètement fondées. Par exemple, en Chine, il y a une véritable utilisation de la reconnaissance faciale couplée avec un certain nombre de procédures qui sont liées à cet état autoritaire, s'il faut appeler un chat, par exemple des notes sociales qui sont accordées aux individus. Vous n'avez pas peur, finalement, de contribuer à façonner indirectement, Olivier Bousquet, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais comme vous publiez dans ce domaine, que vous faites évidemment des publications ouvertes à tous, de contribuer à un domaine qui va limiter considérablement nos libertés ou qui pourrait servir des régimes totalitaires?
C'est une question très importante. Toute technologie a, selon son utilisation, des impacts positifs ou négatifs. La technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est son utilisation qui va déterminer cela. Dans le cas de l'intelligence artificielle, qui est une technologie très polyvalente et donc qui peut être appliquée à des tas de domaines, il faut faire très attention, effectivement. Il y a, vous l'avez vu, tout un tas d'utilisations très positives, comme la protection de l'environnement, la santé, nous l'avions évoqué, mais ça peut donner lieu aussi à des dérives. Et donc je pense que c'est là que, on parlait de philosophie tout à l'heure, c'est là que l'éthique devient importante. Je pense, et c'est aussi une recommandation du rapport Villani, mais je pense qu'il va bien au-delà de simplement la France, c'est quelque chose d'international. Je pense qu'il faut établir un certain nombre de règles, de bonnes pratiques, de lignes de conduite par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et se fixer des limites des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut ou ne pas être appliquée.
Et quel domaine, par exemple, pourrait être établi où l'intelligence artificielle ne viendrait pas? Parce que finalement, l'utilisation que la Chine fait de l'intelligence artificielle est plutôt logique dans la mesure où il y a toute une série de tâches répétitives qui peuvent être des tâches de police qui sont malheureusement terriblement efficaces lorsqu'elles sont informatisées.
Oui, alors pour ce genre d'utilisation, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. La police, c'est quelque chose de très utile et d'important, mais qui peut donner des dérives dans le cas de régime totalitaire. Donc là, je pense que c'est quelque chose, c'est à la société dans son ensemble et aux différents acteurs de la société, que ce soit juridique ou philosophique, d'établir des limites et de définir un cadre qui permet d'évaluer et de déterminer si, oui ou non, l'application peut donner lieu à une dérive.
Si on passe à la crainte d'après, elle a plutôt été formulée par des auteurs de science-fiction, c'est le fait que ces ordinateurs se retournent contre nous. C'est aussi d'ailleurs un scénario qui paraît plausible à Yuval Noah Harari, l'historien israélien qui a publié Homo Deus il y a quelques mois. Lui considère qu'on ne peut pas exclure l'idée selon laquelle les ordinateurs se retourneraient contre leur promoteur, vous, Olivier Bousquet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'on en est encore très loin. Si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, dans les années 50, les gens disaient déjà, dans 10 ans, on aura des ordinateurs dont l'intelligence sera équivalente à celle des hommes. Vous voyez qu'on en est très loin. Donc il y a eu toujours un peu un excès d'optimisme sur les prédictions. Ensuite, maintenant, on parle de 2050, etc. Je ne me risquerai pas à faire de telles prédictions. Simplement, je veux dire qu'à l'heure actuelle, on a fait des progrès modestes, mais significatifs, qui permettent dès aujourd'hui de fournir des outils très polyvalents et très utiles, comme on l'a vu. Et donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut se focaliser, c'est-à-dire comment on fait pour mettre en œuvre ces outils de façon positive pour la société dans l'immédiat. Ce qui va se passer après, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est du ressort de la science-fiction, des films d'Hollywood. Mais à partir du moment où on va encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense que, à l'état actuel des connaissances, on peut considérer qu'il n'y a pas de risque majeur.
Si on revient sur Terre, par exemple, une technologie qui est à la fois complexe et pas nécessairement intelligente au sens où elle utilise des tâches répétitives, la conduite, par exemple, la voiture autonome, véritablement autonome, c'est pour quand, selon vous, Olivier Bousquet ?
Alors, c'est une bonne question. C'est un domaine dans lequel je ne travaille pas moi-même. Google travaille dans ce domaine, effectivement. On a déjà mis en œuvre certaines de ces voitures, donc qui sont testées à l'heure actuelle sur les routes aux États-Unis. Il y a déjà des essais qui ont été faits avec des passagers et pas de conducteurs dans des zones bien définies. Donc, je pense que on y arrive assez bientôt. Je dirais, dans les 2-3 ans à venir, on devrait voir ce genre de voiture être capable, au moins dans certaines villes, de fonctionner.
Et la capacité prédictive, puisque je vous ai demandé une prédiction, et que là aussi, ça fait partie des champs de recherche de l'intelligence artificielle, d'avoir de l'intuition, en tout cas, d'être capable de prédire des choses. D'après vous, Olivier Bousquet, quand est-ce qu'on pourra imaginer des mécanismes prédictifs en intelligence artificielle ?
Alors, c'est déjà un petit peu le cas, si vous voulez. La prédiction, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire avec de l'apprentissage automatique. Ça peut être sous la forme de savoir ce qui va se passer ensuite quand une voiture voit un piéton qui s'apprête à franchir un passage clouté. La prédiction consiste à déterminer si oui ou non il va franchir le passage clouté, ce qui peut être fait sur la base de la posture de ce piéton. Donc c'est une forme de prédiction, si vous voulez, de savoir ce qui va se passer juste après.
Et puis, la dernière chose, et là on a bien compris que c'était vraiment la limite en matière d'intelligence artificielle, c'est la notion de conscience. Et ça, vous pensez que c'est envisageable ? Est-ce qu'on verra un ordinateur doté d'une conscience ? On pourra discuter avec lui, Olivier Bousquet ?
Alors, discuter avec un ordinateur, c'est déjà le cas d'une certaine façon. On peut, vous pouvez parler à votre téléphone.
Oui, on peut lui parler, mais c'est mieux quand même. Ça reste plus intéressant de parler à un humain jusqu'à présent.
Tout à fait. Et pour l'instant, ce téléphone n'a pas de conscience. Et je pense qu'on est très loin, ne serait-ce que de savoir définir ce qu'est la conscience, et donc encore plus de savoir comment faire qu'une machine ait une conscience. Donc pour l'instant, effectivement, c'est une machine, c'est une entrée-sortie. On donne en entrée une image et on a une sortie qui est le contenu de cette image et puis c'est à peu près tout.
En conclusion, Olivier Bousquet, donc vous allez nous quitter pour aller, je crois, à l'Élysée. Et vous allez donc participer à cette journée consacrée à l'intelligence artificielle avec la remise du rapport de Cédric Villani. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qui va se passer après, très rapidement, pour ce domaine-là, avec donc cette priorité qui est donnée en France pour l'intelligence artificielle ?
Alors, je pense qu'il va y avoir tout un tas de mesures qui vont être mises en place. Et des investissements par un certain nombre d'acteurs, Google en faisant partie, qui vont viser à développer des nouveaux centres de recherche, mener des recherches en collaboration avec des instituts, comme je le citais tout à l'heure, l'INRIA par exemple. Et donc ça va créer toute une dynamique qu'on va voir se dérouler sur les prochaines années, qui, je l'espère, va attirer des talents en France pour travailler sur ces sujets et pour développer des applications dans les domaines que nous avons évoqués.
Merci beaucoup Olivier Bousquet de nous avoir exposé les travaux qui sont en cours au laboratoire de recherche artificielle de Google. Je remarque que mon ordinateur ne marche toujours pas, comme quoi l'intelligence artificielle c'est une chose. Si déjà les ordinateurs fonctionnaient, ça serait peut-être bien aussi.